Les podcasts de l'Institut de France.
Chercheurs à l'honneur.
Le prix Michel Serres récompense et distingue chaque année des thèses de doctorat croisant une discipline de sciences exactes et une discipline de sciences humaines et sociales. En 2026, 5 thèses ont été sélectionnées, dont la vôtre, Gwendoline Lemaître. Bravo, félicitations.
Merci beaucoup.
Vous êtes chercheuse et vos travaux s'intéressent à la manière dont des êtres très différents, des humains, des animaux, des morts et des esprits, vivent et habitent le monde ensemble. Et vous avez travaillé auprès d'un peuple assez peu connu en France. Ce peuple s'appelle les Touches. Ce sont des pasteurs, des bergers, qui ont une manière d'habiter le monde bien particulière. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire dans quel pays ils vivent?
Les Touches, c'est des personnes qui vivent en Géorgie. C'est une petite population de Géorgie. Mmh. Donc dans le Caucase.
Plutôt situé dans le nord, dans le nord-est du pays, c'est ça, de la Géorgie.
En fait, c'est des personnes qui ont été déplacées. C'est ça le point de départ de ma recherche. Donc ils vivent toujours dans l'est du pays, mais effectivement ils vivaient dans les montagnes du Grand Caucase, complètement au nord-est du pays. Et maintenant ils alternent les périodes de vie dans plusieurs régions.
Alors, donc, ces touches qui sont quasi inconnues du grand public français, comment est-ce que vous les avez découvertes et surtout, qu'est-ce qui vous a convaincu que leur histoire méritait une thèse de 662 pages, c'est ça?
Oui, sûrement, vous. C'est un long cheminement. En fait, moi, j'ai fait des études d'anthropologie depuis la licence. Et donc, pour être pris en master, il fallait déjà prévoir un petit projet de recherche, quoi. Et donc, moi, j'ai commencé à discuter avec plusieurs chercheurs et chercheuses, et notamment avec Estelle Amie de la Bretèque, qui est ethnomusicologue et qui m'a parlé du Caucase. Elle travaille en Arménie.
D'accord.
Et donc, j'ai complètement découvert un univers que je ne connaissais pas du tout. Donc, je me suis plongée dans la littérature, les films, etc. Et puis, c'était parti.
Et c'est comme ça que vous avez découvert
la Géorgie.
La Géorgie d'abord.
Et après, moi, ça m'intéressait de travailler avec des populations rurales, venant moi-même d'un monde très rural et très pastoral, vu que j'ai grandi dans les Cévennes.
D'accord.
J'ai commencé à me renseigner sur les différentes populations qui vivaient en Géorgie. Comme c'est un pays où il y a beaucoup de langues qui cohabitent, beaucoup de religions aussi. Et donc j'ai entendu parler de ces personnes qui avaient été déplacées justement, et c'est cette histoire de déplacement qui m'a intéressée au début de ma recherche.
Parce qu'effectivement, vous dites que, vous observez que les Touches habitent 3 espaces différents. C'est un territoire qui forme une sorte de triangle. Et donc ce sont des lieux qui ne se ressemblent pas, si vous pouviez nous décrire un petit peu ces
exactement.
3 lieux.
Exactement. Alors pas exactement un triangle, c'est plutôt une ligne.
Okay.
Parce que en fait, les Touches vivaient donc dans les montagnes du Grand Caucase, dans des villages qui sont aux alentours de 3000 mètres d'altitude. Donc c'est quand même des villages de haute altitude jusqu'aux années 30. Mm-hmm. Et puis à cette période-là, c'est la collectivisation de la Géorgie. Et donc, comme beaucoup d'autres personnes qui vivaient dans les hautes montagnes, les Touches ont été amenées à se déplacer à la fois par la force et à la fois par l'attrait d'un mode de vie plus modernisé, etc., mm-hmm. dans les plaines. Donc, des villages ont été construits pour eux, de toutes pièces, dans les plaines. Et donc, depuis les années 30 et 50, parce que ça a duré longtemps, ce déplacement-là de toute une population, au final... Ils alternent en fait des périodes de vie hivernales dans les plaines et puis des périodes de vie estivales où les bergers remontent en estive et puis les familles les suivent à partir du moment où la route est plus praticable.
Okay.
Et aussi donc une troisième région qui sert d'hivernage, mais uniquement cette fois aux éleveurs, donc à l'extrême sud du pays. Donc il y a comme ça ces 3 espaces qui sont effectivement écologiquement très contrastés. On a à l'extrême sud une région semi-désertique, saline, de grandes steppes, en fait, où les éleveurs passent l'hiver, mais les familles ne s'y rendent pas. Mm-hmm. Cette zone de plaine où ils sont installés depuis les années 30, 50, qui sont des plaines très fertiles, où il y a des jardins polyvalents qui servent à beaucoup à nourrir, en fait, toute la population. Et puis ces estives qui sont aussi un retour vers les villages ancestraux, etc., où se passent aussi des grandes fêtes pendant tout l'été.
Donc il y a des mobilités saisonnières entre ces trois espaces.
C'est ça.
Et vous dites quelque chose d'intéressant, vous dites que les touches n'habitent pas alternativement ces espaces, mais simultanément, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, c'était un petit peu... mon point de départ, quand je suis arrivée donc, sur ce terrain-là dès mon mémoire, donc avant ma thèse, c'était d'essayer de comprendre ces personnes qui avaient été déplacées, donc qui vivaient a priori le plus clair de leur temps en dehors de la région qu'ils considéraient comme celle de leurs ancêtres. Est-ce qu'ils continuent à maintenir des liens donc avec les montagnes ou pas? Et à l'inverse, est-ce que ces endroits où ils avaient été déplacés comptaient pour eux ou est-ce que c'était une sorte d'exil forcé? Donc ça, c'était vraiment mon point de départ. Et c'est vrai qu'à l'issue de ma thèse, donc bien des années plus tard, ce qu'il m'est apparu, c'est qu'en fait, effectivement, les touches passent leur temps à entremêler ces trois régions-là par des pratiques, par exemple par des transferts d'aliments, des plantes qui sont cueillies en altitude mais qu'on va consommer dans les plaines et qui permettent de faire le lien, de se rassembler autour d'une tisane qui permet d'évoquer des lieux dans lesquels on n'est plus. Ou alors par exemple le fromage qu'on va confectionner à partir du lait de brebis mais qui a le goût de certains lieux d'estive. Okay. Et en même temps, quand on est en montagne, on va aussi consommer les plantes qui sont cultivées dans les plaines. Donc en fait, il y a plusieurs pratiques comme les transhumances, comme la vie avec les animaux, mais aussi l'alimentation, comme l'installation des morts aussi, qui permettent voilà, d'entremêler des lieux qui sont éloignés dans l'espace.
Et je voulais revenir sur le rôle des animaux domestiques, parce que dans votre thèse, ils occupent une place assez centrale. Est-ce que vous pourriez développer cet aspect-là?
Oui, effectivement, c'est aussi quelque chose qui s'est imposé à moi à partir du terrain. On fonctionne beaucoup comme ça en anthropologie, c'est-à-dire qu'on arrive sur le terrain avec des questionnements qu'on a élaborés à partir de la littérature, à partir de ce qu'on a pu trouver sur ce qui allait nous attendre. Mais en fait, c'est après le terrain, dans un second temps, qui nous dicte un petit peu quels sont les points importants sur lesquels on va se focaliser. Un point central dans ce rapport entre mobilité, pastoralisme, etc., c'est que l'accès à la Touchéti, donc ce territoire de montagne, est accessible aujourd'hui qu'à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, et après toutes les routes sont bloquées par la neige. Donc ce sont vraiment les transhumants qui ouvrent la route. Donc c'est vraiment le passage par les brebis, par les chevaux, par les chiens qui permet ensuite à toutes les familles de fréquenter ces lieux-là.
Et alors tout ça, vous l'avez vu? Vous êtes allé sur le terrain? Vous êtes resté combien de temps en Géorgie avec les touches?
J'ai fait un premier terrain donc pour mon master de 4 mois et demi. Et après, je suis retournée sur le terrain pour la thèse à peu près 11 mois.
Okay.
Donc une quinzaine de mois en tout.
Et alors comment s'est passée la rencontre avec ce peuple?
Je ne savais pas très bien comment ça allait se faire. Et donc c'est un ethnologue allemand qui m'a aidée à ce moment-là, qui avait écrit un bouquin lui sur cette population déjà, avec lequel j'avais pris contact et qui m'a donné le contact du fils de la personne avec lequel lui avait travaillé.
Dans cette thèse, vous mobilisez les concepts d'humains, de non-humains, qui ont été utilisés par de grands penseurs comme Bruno Latour, Philippe Descola aussi. Philippe Descola qui a lu votre thèse, je crois.
J'ai eu cette chance, effectivement, vu qu'il était, il a accepté de participer à mon jury en tant que rapporteur en plus, donc de prêter une grande attention à ma thèse et de me faire l'honneur de me faire un rapport, etc. Donc... C'est
super.
Une chance.
Comme je le disais en introduction, le prix Michel Serres donc récompense des thèses interdisciplinaires. Est-ce que vous pouvez juste rappeler quelle discipline vous avez croisé?
Il s'est très vite avéré que les animaux avaient une place centrale dans le mode de vie des touches avec lesquelles je travaillais. Et c'était pas si facile.
J'imagine. Ouais.
Notamment parce que l'objectif, c'était pas non plus que je devienne une spécialiste de l'éthologie, ce que clairement j'étais pas en mesure de faire. Dans le temps qui m'était imparti, mais plutôt que je nourrisse ma discipline et ma pratique de l'anthropologie de réflexions, de méthodes et de manières de regarder le monde des éthologues.
Gwendoline Lemaître, merci beaucoup pour cette introduction.
Merci.
Et d'ailleurs, je rappelle le titre de la thèse en entier. Alors attention,
faut
s'accrocher. Discontinuité du territoire, ubiquité du collectif, habité en touche avec les troupeaux, les esprits maîtres et les morts dans l'est de la Géorgie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.